Extrait numéro 8, chapitre 13, à bord du Cocherill. On se rappelle que nous avions à bord, entre autres passagers illustres, le prince Troubetskoy et la princesse Dolgorouki. Le prince Troubetskoy venait pour m'inviter à une chasse aux loups dans le bois de Gatchina, où les loups sont aussi drus, dit-on, que les lièvres dans la forêt de Saint-Germain. Aussi, la chasse aux loups est-elle, avec la chasse à l'ours, un des plaisirs favoris des Russes. Seulement, comme les descendants de Rourik aiment le danger pour le danger, ils ont inventé une chasse qui offre deux dangers à la fois. D'abord celui d'être dévoré par les loups, comme Baudouin Ier, empereur de Constantinople, ensuite d'être fracassé dans son char, comme Hippolyte, fils de Thésée. Voici comment s'applique cette ingénieuse invention l'hiver, bien entendu, époque où le défaut de nourriture rend les loups féroces. On se met trois ou quatre chasseurs, avec chacun un fusil à deux coups, dans une troïka. La troïka est une voiture quelconque, droshky, kibitk, calèche ou tarantas, attelée de trois chevaux, son nom lui venant de son attelage et non de sa forme. De ces trois chevaux, celui du milieu ne doit jamais quitter le trou. Ceux de droite et de gauche ne doivent jamais quitter le galop. Celui du milieu trotte la tête basse et s'appelle le mangeur de neige. Ces deux compagnons, qui n'ont qu'une reine, sont retenus par le milieu du corps au brancard, mais galopent la tête écartée l'un à droite, l'autre à gauche. On les appelle les furieux. L'attelage, ainsi emporté par sa course, offre l'aspect d'un éventail. Un cocher dont on est sûr, s'il est au monde un cocher dont on soit sûr, conduit la troïka. À l'arrière de la voiture, avec une corde ou une chaîne pour plus de sûreté, on attache un jeune cochon. La corde ou la chaîne doit avoir une dizaine de mètres. Le jeune cochon est douillettement transporté dans la voiture jusqu'à l'entrée de la forêt où l'on compte commencer la chasse. Là, on le descend et le cocher lâche les chevaux qui partent, celui du milieu trottant, ceux des ailes galopant. Le jeune cochon, peu habitué à cette allure, pousse des plaintes qui dégénéraient bientôt en lamentations. À ces lamentations, un premier loup montre son nez et se met à la poursuite du cochon, puis deux loups, puis trois loups, puis dix loups, puis 50 loups. Tous se disputent le jeune cochon, se battent entre eux pour en approcher, lui allongeant l'un un coup de griffe, l'autre un coup de dent. Des lamentations, le pauvre animal passe aux cris désespérés. Ces cris vont éveiller les loups dans les profondeurs les plus reculées de la forêt. Tout ce qu'il y a de loups à trois lieues à la ronde accourt, et la troïka se trouve poursuivie par un troupeau de loups. C'est alors qu'il est urgent d'avoir un bon cocher. Les chevaux, qui ont pour les loups une horreur instinctive, deviennent insensés. Celui qui trotte voudrait galoper, ceux qui galopent voudraient prendre le mort aux dents. Pendant tout ce temps, les chasseurs tirent au hasard. Il n'y a pas moyen de viser. Le cochon crie, les chevaux hennissent, les loups hurlent, les fusils tonnent. C'est un concert à rendre jaloux Méphistophélès au sabbat. Attelage, chasseurs, cochons, troupeaux de loups ne sont plus qu'un tourbillon emporté par le vent qui fait voler la neige tout autour de lui et qui, pareil à une nuée d'orage glissant dans l'air, lance les éclairs et la foudre. Tant que le cocher est maître de ses chevaux, si emporté qu'il soit, tout va bien. Mais s'il cesse d'en être le maître, si l'attelage accroche, si la troïka verse, alors tout est fini. Le lendemain, le surlendemain, 8 jours après, on retrouve les débris de la voiture, les canons des fusils, les carcasses des chevaux et les gros os des chasseurs et du cocher. L'hiver dernier, le prince Repnin a fait une de ses chasses, et peu s'en est fallu que ce ne fût la dernière qu'il fit. Il se trouvait avec deux de ses amis dans un de ses biens qui confine aux steppes. On résolut de chasser le loup, ou plutôt de se faire chasser par les loups. On prépara un large traîneau où trois personnes pouvaient se mouvoir à l'aise. ont l'attelage de 3 vigoureux chevaux que l'on confia à un cocher né dans le pays et plein d'expérience. Chaque chasseur avait une paire de fusils doubles et 150 coups à tirer. Les places furent distribuées ainsi. Le prince Repnin faisant face à l'arrière, chacun de ses amis faisant face à un côté. On arriva dans le steppe, c'est-à-dire dans un désert immense couvert de neige. C'était une chasse de nuit. La lune, dans son plein, brillait du plus vif éclat et ses rayons réfractés par la neige répandaient une clarté qui pouvait rivaliser avec celle du jour. Le cochon fut lâché, le traîneau partit. En se sentant entraîné malgré lui, le cochon cria. Quelques loups parurent, mais d'abord peu nombreux, craintifs et se tenant à une grande distance. Peu à peu, leur nombre augmenta et au fur et à mesure que leur nombre augmentait, ils se rapprochaient des chasseurs qui, pour commencer, n'imprimaient à leur troïka qu'un mouvement ordinaire malgré l'impatience craintive des chevaux. Ils étaient 20 à peu près lorsqu'ils se trouvèrent assez rapprochés pour que le massacre commençât. Un coup de fusil partit, un loup tomba. Un grand trouble se mit dans la bande et il sembla aux chasseurs qu'elle était diminuée de moitié. En effet, contrairement au proverbe qui dit que les loups ne se mangent pas, 7 ou 8 affamés étaient restés en arrière pour dévorer le mort. Mais bientôt, les vides furent comblés. De tous côtés, on entendait des hurlements répondant aux hurlements. De tous côtés, on voyait poindre des nez pointus et étinceler des yeux pareils à des escarboucles. Les loups étaient à portée et les chasseurs faisaient un feu roulant. Mais quoique presque tous les coups portassent, au lieu de diminuer, la bande allait toujours en augmentant. Bientôt, ce ne fut plus une bande, ce fut un troupeau, dont les rangs pressés suivirent les chasseurs. Leur course était si rapide qu'ils semblaient voler sur la neige, si légère qu'elle ne soulevait pas le moindre bruit. Leur îlot, pareil à une marée muette, se rapprochait sans cesse et ne reculait pas devant le feu des 3 chasseurs, si bien nourri qu'il fût. Il formait à l'arrière de la troïka un immense croissant dont les 2 cornes commençaient à dépasser la hauteur des chevaux. Leur nombre augmentait avec une telle rapidité qu'on eût dit qu'ils sortaient de dessous terre. Il y avait quelque chose de fantastique dans leur apparition. On ne pouvait en effet se rendre compte de la présence de 2 à 3 000 loups au milieu d'un désert où dans toute une journée on en découvrait à peine 2 ou 3. On avait cessé de faire crier le cochon et on l'avait réintégré dans le traîneau, ses cris redoublant l'audace des poursuivants. Le feu ne cessait pas, mais on avait déjà usé plus de la moitié des munitions. Peut-être restait-il 200 coups à tirer et l'on était entouré par 2 ou 3 000 loups. Les 2 cornes du croissant avançaient de plus en plus et menaçaient de se refermer en faisant un cercle dont le traîneau, les chevaux et les chasseurs deviendraient le centre. Si l'un des chevaux venait à s'abattre, tout était fini et les chevaux effarés soufflaient le feu et bondissaient en écart terrible. « Que penses-tu de cela, Ivan ?» demanda le prince à son cocher.
« Je pense qu'il ne fait pas bon ici, mon prince.
Crains-tu quelque chose ?
Les démons ont goûté du sang et plus vous continuerez à tirer, plus leur nombre augmentera.
Quel est ton avis ? Si vous permettez, mon prince, je vais lâcher la bride à mes chevaux.
Es-tu sûr d'eux ?
J'en réponds.
Et de nous en réponds-tu ?
Le cocher ne dit mot. Il était évident qu'il ne voulait pas s'engager.
Il lâcha la bride à ses chevaux dans la direction du château. Ces nobles bêtes que l'on croyait lancées à fond de train, aiguillonnées par la terreur, redoublèrent de vitesse. L'espace était littéralement dévoré sous leurs élans désespérés. Le cocher les excitait encore par un sifflement aigu, en même temps qu'il décrivait une courbe qui devait couper un des coins de la corne. Les loups s'écartèrent pour laisser passer les chevaux. Les chasseurs allaient mettre en joue Sur votre vie, leur dit le cocher, ne tirez plus. » On obéit à Ivan. Les loups, étonnés de cette manœuvre inattendue, demeurèrent un instant indécis. Pendant cet instant, la troïka fit une verste. Quand les loups se remirent à sa poursuite, il était trop tard, ils ne purent la rejoindre. Un quart d'heure après, on était en vue du château. Le prince estimait que pendant ce quart d'heure, ses chevaux avaient fait plus de 2 lieues. Le lendemain, il visita à cheval le champ de bataille. On trouva les ossements de plus de 200 loups. Vous voyez que c'est une chasse pleine d'émotions. Les personnes qui ont la bonté de s'intéresser à moi sont priées de ne pas frissonner d'avance. C'est une simple battue et non une chasse en troïka que nous comptons faire dans les bois du prince Troubetskoï.